RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Et oui, le Tour de France s'élance demain du Mont-Saint-Michel, direction Utah Beach, direction une grande balade à travers les routes de France qui nous mènera jusqu'aux Champs-Élysées le 24 juillet prochain au terme de 3500 et quelques kilomètres. Ça va être long pour tous les coureurs du Tour de France, mais nous on a hâte évidemment que ça débute. On en parle jusqu'à 18h avec des membres éminents de la Dream Team cyclisme d'RMC, Cyril Guimard évidemment, 45e Tour de France demain, et Jérôme Pinault, premier Tour de France en tant que suiveur. Il en a quand même 13 dans les pattes, notre ami Jérôme, qui nous rejoint cette année pour le Tour de France. Le reste de la Dream Team, on le retrouvera tout à l'heure avec Luc Leblanc et avec Thierry Bourguignon, qui viendront nous donner leur pronostic pour ce Tour de France. Dans cette deuxième heure, nous allons continuer d'évoquer les grands favoris de cette épreuve. Évidemment, les étrangers, Chris Froome, le Britannique, va-t-il se succéder à lui-même? Quintana va-t-il être le premier Colombien vainqueur du Tour de France, ou Contador va-t-il tirer une dernière fois dans ce Tour de France? Il y en a certains qui l'espèrent évidemment. Je pense évidemment à notre ami Georges Quirino qui sera avec nous dans un instant. On continue avant cela d'évoquer les autres Français. On a parlé de Thibaut Pinot et de Romain Bardet, qui sont évidemment les têtes de gondole du peloton français, et qui ont montré depuis pas mal d'années maintenant qu'ils étaient vraiment en devenir, et pourquoi pas dès cette année. Il y en a d'autres qui arrivent, des garçons un tout petit peu plus jeunes. C'est la même génération à peu près, Cyril, mais on les a moins vus que Pinot et Bardet, notamment sur les routes du Tour, à commencer par Warren Barguil, qui l'année dernière nous avait fait très forte impression pour sa première participation au Tour de France, avant évidemment de se blesser et de connaître pas mal de chutes. Cette année, il arrive en pleine forme, on l'a vu encore il y a quelques jours. Barguil peut-il monter d'un cran et là aussi inquiéter les grands favoris du classement général? Cyril, tu le connais bien évidemment, Warren Barguil.
Oui, c'est un Breton, c'est normal, oui. Mais même ceux qui sont de Loire-Atlantique sont bretons, faut le savoir.
Exactement. Surtout de Vigneux de Bretagne, monsieur.
Oui, en plus, oui. Oui, donc il avait fait un superbe tour l'an dernier et malheureusement il a été victime d'une très dure chute qui l'a éliminé sur la dernière semaine. Bon, même si il s'est accroché, il a pris de l'envergure cette année. On l'a vu d'ailleurs sur le dernier Tour de Suisse où il a été absolument extraordinaire dans la haute montagne, qui est quand même sa qualité. Il peut venir accrocher. Il a lui aussi, comme tous les Français dont on parle sur ce Tour, un gros handicap contre la montre, même si on dit que Thibaut Pinot a progressé, que Bardet a progressé un petit peu. Il a quand même une carence importante à ce sujet, et il y a quand même plus de 50 km de contre-la-montre sur le Tour, même si le premier de 17 km avec la côte de Domancy ne le désavantagera pas par rapport aux vrais grimpeurs, mais on peut difficilement aujourd'hui le mettre dans une position où on peut le mettre sur le podium, disons que...
Tu le mettrais sur le podium, toi?
Non. Je pense qu'il ne peut.
D'accord.
Il perdra trop de temps contre la montre pour être sur le podium, ou alors faut qu'on le laisse partir dans une échappée. Quand il vient de faire le Tour de Suisse qu'il vient faire, on le laissera pas partir dans une échappée, comme on laissera pas partir Romain Bardet, comme on laissera pas partir Thibaut Pinot, Alaphilippe à la rigueur, mais ça s'arrête là. Pierre Roland peut partir dans des coups, parce que lui aussi il perd beaucoup de temps contre la montre. Vous savez, quand on prend le départ du Tour et que vous êtes directeur sportif, vous avez l'analyse des différents coureurs dangereux, et déjà vous pouvez mettre chez certains un débours. Si on prenait par exemple Richard Virenque, s'il y avait 70 km contre la montre, on savait qu'au départ du Tour il avait 7 minutes de retard. Donc on pouvait le laisser partir, faire ses raids dans la montagne, aller chercher son maillot de la montagne. Mais à partir du moment où vous rapprochez, on vous laisse plus partir. Donc les stratégies de course font que les coureurs, même s'ils ont progressé contre la montre, ne vont pas avoir de portes qui vont s'ouvrir.
Jérôme, Warren Barguil vise aussi, peut-être pas le maillot jaune, mais vise le maillot blanc de meilleur jeune de ce Tour de France. Est-ce que ça c'est dans ses cordes, ou est-ce qu'il y a d'autres adversaires qui peuvent lui barrer la route, et à qui tu penses par exemple?
Oui, il y a beaucoup de jeunes coureurs, hein. Wilco Kelderman en fait partie. Sur le dernier Tour de Suisse, Warren Barguil s'est bataillé, finit troisième de ce Tour de Suisse avec que des jeunes coureurs. Aujourd'hui, la jeune génération est présente. On a aussi du côté des Français, Julien Alaphilippe, pourquoi pas, hein, pour ce maillot blanc. Donc il va y avoir une vraie bataille pour s'imposer et pour porter le maillot blanc à l'arrivée à Paris. Il faudrait être dans les 5 ou 6 premiers du Tour. La jeune génération prend le pouvoir. Il y a de très bons coureurs qui vont pouvoir se battre pour ce maillot, mais ça n'est pas un objectif, ce maillot. Au départ, Warren, je pense, va d'abord penser à essayer de s'imposer sur les étapes. Et puis, on verra au jour le jour du côté de Warren. On est plutôt dans l'objectif, voilà, de aller s'imposer le plus vite possible sur une étape du Tour. Et puis, on verra advienne que pourra ensuite. Mais c'est vrai que, comme le dit Cyril, le contre-la-montre n'est pas son fort.
On va évoquer le dernier de la bande des mousquetaires du peloton français. Mais avant cela, nous partons justement retrouver un mousquetaire, un vrai Joe Wilfried Tsonga, qui a une balle de match, Eric Salio, à Wimbledon.
Non, pas encore. Une balle de 7. Mais je vois pas comment Juan Monaco va pouvoir remonter la pente. Il est mené désormais 2-0 par un Tsonga expéditif qui a beaucoup d'expérience sur gazon, 6-1, 6-4. Tsonga qui sait qu'il rejouera demain. Donc effectivement, il ne faut pas laisser d'énergie aujourd'hui sur le gazon de Wimbledon. Donc 6-1, 6-4 pour Tsonga. Et c'est également très bien parti pour Lucas Pouille, lui qui mène 6-4, 6-3 face à Donald Young, l'américain. Lucas Pouille, en cas de victoire, il affronterait Juan Martín del Potro qui, je vous rappelle, a sorti il y a quelques minutes sur le central la tête de série numéro 4, Stan Wawrinka.
Merci Eric, à tout à l'heure. Donc pour Joe Wilfried Tsonga qui est bien parti dans ce match. Pierre-Yves Leroux est toujours avec nous en direct de Saint-Lô, là où se trouve la permanence et le centre de presse de ce Tour de France à quelques heures du départ. Pierre-Yves, on va évoquer maintenant le dernier de la bande, mais peut-être pas le moins
juste avant peut-être, oui, Christophe,
oui,
sur Warren Barguil, parce que vous avez évoqué sa malchance l'année dernière pendant le Tour de France, mais il y a un point important, c'est sa chute en début de saison à l'entraînement, renversée par une voiture avec une partie de l'équipe Giant, et finalement il dit ça m'a rendu plus fort. Il a peut-être perdu 3 semaines, 1 mois, mais ça peut être un atout finalement. On l'aurait pas imaginé quand on l'a vu revenir de cet accident, mais ça peut être un atout finalement sur ce Tour de France avec cet objectif maillot blanc, maillot à poids, étape, comme disait Jérôme tout à l'heure.
Voilà, en tous les cas, on le suivra avec beaucoup d'intérêt. Warren Barguil, qui est un garçon très sympa et qui sait faire le spectacle en plus sur les routes du Tour, même si le spectacle, Cyril Guimard, pour lui, c'est un gros mot. Julien Alaphilippe, donc le quatrième mousquetaire, lui, c'est son premier Tour de France. Le grand public ne le connaît pas encore forcément, Pierre-Yves, même si il a quand même réalisé de très belles performances depuis le début de la saison, et même la saison dernière, hein, où il avait bien failli remporter les grandes classiques. Lui, c'est peut-être pas l'ambition du général, même si il a montré quand même de très belles choses là aussi sur le Dauphiné dernièrement. Premier tour, un garçon plein de talent. Hein.
Oui, je crois que ceux qui ne le connaissent pas encore... Il va plaire au public parce que il est insouciant, il a de la joie de vivre. Il est complet en plus, puncher, sprinter, grimpeur. Il est jeune, 24 ans, tu disais, c'est à peu près la même génération, 24, 25, 26 à peu près pour tous ces garçons. Et c'est effectivement, comme Romain Bardet, l'autre Auvergnat qui pourrait briller, vainqueur du Tour de Californie cette année, meilleur jeune du Dauphiné à 24 ans, c'est quand même assez impressionnant. Et puis... il va effectivement avoir un rêve de gamin qui se réalise, puisque il regardait il y a encore peu la grande boucle à la télé, et on peut compter sur sa fougue, son instinct pour animer l'épreuve, même si il sera évidemment aussi au service de ses leaders Dan Martin, Tony Martin et puis le sprinter Marcel Kittel.
On va l'écouter tout de suite, Julien Alaphilippe, jeune coureur français, plein d'ambition, plein de talent, on l'écoute.
Bah, l'objectif, comme je vous l'ai dit, ça va être la découverte, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais voilà, je vais essayer de respecter mon rôle à la lettre. Hein. On a une équipe vraiment très forte au départ pour des victoires d'étape, et j'espère avoir un rôle important et aider mes collègues au mieux, et après on verra ce qui se passe sur la route, quoi.
Voilà, Julien Alaphilippe, ambitieux sur les routes de ce tour. Non, Cyril n'est pas d'accord, mais c'est vrai que dans les propos, en tous les cas, il est pas ambitieux.
Ah, bah, oui, non,
toi, tu voudrais que tout le monde arrive sur le tour en disant, mais je vais gagner le tour cette année.
Il se met dans un rôle d'équipier.
Ben oui.
Non, ce qui veut dire que les consignes qu'il a déjà reçues ne sont pas celles d'un coureur protégé au sein même de sa propre équipe. Donc il va falloir qu'il aille au charbon pour emmener les sprints.
Non, il n'ira pas au charbon pour emmener les sprints. On a une équipe Etix autour de Marcel Kittel avec deux dispositifs vraiment distincts, avec Petr Vlahovic.
Pourquoi tu dis on a ?
C'est son ancienne équipe.
c'est ma deuxième famille. Petr Vlahovic, Dan Martin, Julien Alaphilippe, et puis autour de Kittel, on a des bisons. On n'a pas besoin de Julien Alaphilippe. Julien va être l'homme de Dan Martin pour la montagne, pour le protéger, pour éventuellement le suivre le plus longtemps possible dehors des étapes de montagne. Et c'est ce qu'il a fait au Dauphiné, Cyril, et finalement au Dauphiné il a fait un très beau...
On va pas comparer le Dauphiné au Tour de France.
Je suis d'accord. Tu sais, j'allais tout de suite rebondir sur le fait que Julien, pour moi, affiche une trop bonne forme ces dernières semaines. Il était trop en forme. Je pense qu'il va falloir qu'il profite de sa bonne forme et de sa bonne condition sur la première semaine du Tour, parce que ça risque d'être compliqué de boucler la boucle pour lui.
Ah
et
oui.
Les quatre dernières étapes des Alpes risquent d'être les 4 jours de trop pour Julien. J'espère me tromper. À coup sûr, il va se mêler à la bagarre très vite. À Cherbourg, pourquoi pas, déjà. Et puis, dès l'étape arrivant au Lioran. Mais c'est vrai qu'il est très jeune. Il va découvrir le Tour. On sait que quand on est jeune, il a beau être insouciant, ça reste le Tour. Et le Tour, c'est pas une course comme une autre. Et il va être dans une grosse équipe. L'avantage qu'il a, par contre, c'est effectivement de faire partir de cette équipe Etix qui va frotter devant. Qui va être devant, puisqu'on a Marcel Kittel. Et dès demain, on va prendre la course en main. Je connais les deux équipiers qui vont être très vite à l'action demain, en la personne de Case et de Vermotte. Et l'équipe Etix va rouler devant, donc moins de risques. Donc ça, c'est un avantage pour lui. Mais c'est vrai que sa grande forme, sa jeunesse et sa fougue, on sait qu'il faut quand même compter ses coups de pédale autour, il risque de le payer sur le final. Mais en tout cas, on risque de le voir à l'action très vite. Et c'est vrai que le public, et je rejoins Pierre-Yves là-dessus, va apprécier ce gamin-là qui, au même titre que Coquard et Barguil, fait du vélo plaisir et se prend pas la tête.
Voilà, vous allez apprendre à le découvrir, Julien Philippe. Donc il faut, d'après ce que nous dit Jérôme, bien en profiter de la première semaine, parce qu'après ça risque d'être un peu plus compliqué pour lui. Cyril n'est pas tout à fait d'accord, mais vous aurez l'occasion, messieurs, de débattre durant ce Tour de France. Évidemment, heureusement qu'ils sont pas d'accord, l'ancien et le nouveau, tiens. Hein. C'est la bataille des anciens et des modernes, hein, ce Tour de France ici sur RMC. On va remercier Pierre-Yves Leroux, qui a encore un peu de boulot, hein, et on va... un petit peu de boulot quand même.
Oh là là. Oui. Non, j'ai surtout passé le casque à mon partenaire en face de moi, Georges Quirino.
Aïe, il est là lui aussi. Il est là.
Il a pas démarré la moto quand même, Georges.
Non, rassure-toi, mais il va mettre son casque demain. Et il va. Bah, il est là, il est avec toi, Georges. Oui, ça y est.
Pas tout à fait. Il arrive.
Bon, écoute, on va l'accueillir dans un instant. Merci Pierre-Yves. Georges Quirino également, donc avec nous dans l'intégrale Tour de France jusqu'à 18h. Luc Leblanc, Thierry Bourguignon vont nous rejoindre dans quelques instants. Cyril Guimard et Jérôme Pinault sont avec nous. Dans un instant, on va parler des favoris, les grands favoris, ceux qui affirment vouloir remporter le Tour de France, notamment Chris Froome, Quintana et autres Alberto Contador. L'intégral Tour jusqu'à 18h, on revient dans un instant.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour, c'est tous les jours. Il va falloir vous réhabituer à l'Intégral Tour. Ce sera jusqu'au 24 juillet. Première édition aujourd'hui. Demain, nous serons en direct à partir de 15h pour la première étape de ce Tour de France avec toute la Dream Team réunie à mes côtés. Cyril Guimard, Jérôme Pinault, Georges Quirino évidemment, Frédéric Adam, que vous retrouverez demain. Pour l'instant, il fait de la télé. Bah oui, c'est ça, là, les stars. Nous aurons également Pierre-Yves Leroux, Yann Pécheral, Jean-François Paturo et Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. Vous voyez, beaucoup de monde pour évoquer ce Tour de France 2016. Comme nulle part ailleurs, ce sera sur RMC et aussi sur BFM Sport. Évidemment, à suivre tous les jours. Dans un instant, nous allons parler des favoris. Un petit mot tout d'abord de golf avec l'Open de France. Julien Morin avec McIlroy qui vient de prendre la tête de la compétition.
Ah ouais, c'est la grande classe, Christophe, du champion qui parle en ce moment. Le numéro 4 mondial, Rory McIlroy, qui prend pour la première fois seul la tête de ce 100e Open de France. Moins 6 au 15e trou pour le Nord-Irlandais aujourd'hui après son par d'hier. Et le destin n'est pas le même pour Victor Dubuisson. Toujours à la limite, un coup au-dessus du par seulement. Il ne sera pas qualifié pour la 3e journée demain. Le numéro 1 tricolore qui s'engage également sur le 15e trou.
Merci Julien, bonne fin d'après-midi. Tu nous rappelles évidemment s'il se passe d'autres choses sur le parcours de Guyancourt. Il est là, il a enlevé son casque de moto pour mettre un casque de radio. Georges Quirino nous rejoint, lui qui va nous faire vivre lui le plus heureux finalement de toute la Dream Team, parce qu'il est le seul à pouvoir suivre la course derrière son fidèle motard Marc Comp. C'est pas mal, hein, de vivre la course sur une moto, Jérôme, hein, ça doit être chouette ça.
Ah, si j'avais eu l'occasion de prendre une moto, on a peut-être gagné un Tour de France.
Bon, après tu peux toujours essayer de virer Georges Quirino de la moto, mais il est bien accroché.
Ah, il est bien accroché.
Ça va, mon petit Georges? Comment ça se passe cette aventure? Tout va bien?
Ça va très bien, très très bien. Oui, on va voir un magnifique décor demain avec la moto. Quand on sort au pied du Mont Saint-Michel.
On t'a vu ce matin déjà avec le grand patron du Tour de France.
J'étais en repérage.
En repérage.
Enfin, Georges, t'emballe pas, parce que nous on a eu ta bitch et je peux te dire que demain tu vas peut-être pas apprécier tant que ça d'être sur la moto.
T'as intérêt à prendre les bottes et le caouet, Georges. Georges, évidemment. évidemment passionné de vélo. Il suit toutes les courses pour RMC tout au long de la saison. Il connaît tous les champions par cœur. On va, avant d'évoquer ton favori Alberto Contador, évidemment depuis des années, parler quand même du vainqueur sortant, Georges, hein, Chris Froome, qui visera cette année la passe de Troyes, qui semble quand même très fort. Il l'a montré sur les routes du Dauphiné il y a de cela quelques semaines. Est-ce que tu penses qu'il a autant de marge que les années précédentes, et est-ce qu'il aborde ce tour en toute confiance?
Alors en tout cas, on l'avait rarement vu aussi détendu lors de la conférence de presse d'avant Tour de France. D'habitude, il est un peu fermé, on sent qu'il est un peu intimidé par les caméras. Il est vraiment arrivé hier devant nous, tout sourire, super détendu. Donc on n'avait pas l'impression de voir le Chris Froome habituel. Donc peut-être habitué justement par cet événement désormais. Chris Froome qui nous a confié qu'il était peut-être face à son Tour de France le plus difficile à aborder, parce que les rivaux sont très forts. On va le détailler un petit peu plus tard, mais aussi parce que peut-être que son niveau de forme est pas forcément le même que les années précédentes. Il a gagné le Dauphiné bien sûr il y a quelques semaines, mais avant cela sa saison était on va dire moins impressionnante que les années précédentes lorsqu'il s'était imposé sur le Tour de France. En tous les cas, lui, il a une certitude, c'est que sa formation Sky, le rouleau compresseur Sky, va être encore une fois impressionnant cette année, et c'est ce qu'il a voulu souligner en français dans le texte, s'il vous plaît, Christopher Froome, hier en conférence de presse. On l'écoute.
Oui, je suis très content d'être ici avec l'équipe qu'on a. Je crois que l'équipe, c'est une équipe très forte. Peut-être l'équipe plus forte qu'on a déjà mis dans le Tour de France. On verra qu'est-ce qui se passe dans la prochaine 3 semaines. Mais j'ai la confiance avec les gens qu'on a ici.
Voilà, une équipe très forte, nous disent Georges et Christopher Froome. C'est le principal atout, Cyril, de Chris Froome sur son Tour de France, son équipe composée de grands grimpeurs, un véritable rouleau compresseur.
Un vainqueur de l'Ile-Bastogne Liège, cette année. Hein.
Oui, quand même, c'est pas rien.
Oui, ben, je regarde en même temps que j'écoutais la composition de l'équipe. C'est vrai qu'avec Henao, Kirienka, Landa, Nieve, Pouls, on vient de l'évoquer, Stannard, Geraint Thomas, dont on l'an dernier, on se demandait s'il allait pas lui aussi finir devenir un leader. Sur le Tour de Suisse, il a été un petit peu moins bien. Jan Stannard, sur le papier, l'équipe est impressionnante. Mais il y a un moment, c'est un contre un. Hein.
Mmh. Oui, mais bon, le 1, il est pas mal non plus, hein, Jérôme. Chris Froome, Georges l'a dit tout à l'heure, vainqueur du Dauphiné, même s'il a été moins dominateur tout au long de la saison. Mais enfin, il arrive en forme au bon moment, tu le disais tout à l'heure. Julien Alaphilippe était en grande forme peut-être un peu tôt. Chris Froome monte petit à petit vers son pic de forme.
Exactement, il arrive pile poil quand il faut. Il a montré sa suprématie lors du Dauphiné, comme tu le disais, et surtout il a mis une bonne claque à Contador. Hein. Moi, j'étais devant mon écran quand il a contré Contador lors de la première arrivée au sommet au Dauphiné, et c'est vraiment un avantage psychologique. Ils se sont retrouvés une fois à peu près tous ensemble, et il les a battus et facilement, en leur mettant un peu une petite pression. Moi, le seul danger, alors effectivement, son équipe est très forte, mais peut-être que le danger pour Chris Froome vient tout simplement au sein même de son équipe, parce qu'il va falloir qu'il prouve et qu'il. Alors, il est le patron, ça, c'est pas un problème. Sur le papier, il est le patron. Dans les faits, il est le patron, mais sur le terrain, imaginez qu'il montre un peu quelques signes de faiblesse et que demain il y a des bordures et qu'il commence à perdre du temps. Comment va réagir un Landa? Comment va réagir un Vauterpoels, qui sont de très bons coureurs, qui seraient dans n'importe quelle autre équipe au départ, ils seraient leaders.
Et on dirait Froome l'a fait lorsqu'il était en bagarre avec Wiggins, lorsqu'il était.
Imaginons, Froome on a dû freiner Froome hein, quand même du côté de la Sky quand Wiggins s'est imposé. Et Landa, s'il retrouve la forme qu'il avait lors du Tour du Trentin et au départ du Giro avant de tomber malade, c'est un poil à gratter. Et on sait que Landa est pas le prototype du coureur Sky, c'est quelqu'un qui est un peu fun et qui prend parfois quelques largesses. C'est ce qui s'est passé l'an dernier chez Astana.
Et qui n'a pas été formaté.
Et il n'a pas été. Pas encore.
Mais on sait quand même, messieurs, que chez Sky, le plan, c'est le plan. Et on s'en tient au plan. Hein. Par exemple, souvenez-vous, voilà, quand Bradley Wiggins était le leader et que Froome semblait plus fort, on avait quand même décidé de garder Wiggins en leader. Donc quand on décide d'un leader chez Sky, on change assuré, rarement assuré, en cours assuré, de route, à moins qu'il se passe quelque chose vraiment d'énorme.
Assurément, Georges. Voilà, c'est ça. Est-ce que dès que Froome va pas montrer des signes de faiblesse ou un souci ou voilà un moment d'inattention
comme il a sur le Romandie, sur le Tour de Romandie, il a eu des faiblesses.
Okay. Exactement. Et peut-être que c'est aussi un peu d'énergie perdue.
Je suis pas d'accord avec vous. Il a pas été impérial. Hein. Logiquement, si Bardet et Pinot courent bien, pas surtout Bardet, qui avait déjà perdu 45 secondes, rappelez-vous, sur une chute à Villermoz, c'est Bardet qui gagnait le Dauphiné, pas Froome. Hein.
Ouais, mais le jour où ils ont eu à batailler, ils sont arrivés tous au pied de cette bosse, le premier jour en montagne, la première arrivée en altitude, la bataille des costauds, elle est remportée largement par Chris Froome, suivi par Richie Porte, certes, mais quand même Chris Froome, notamment vis-à-vis de Contador, parce que je pense que l'adversaire principal...
Il faut tenir sur la durée.
Oui, t'as raison.
Mais après, pour traduire, pour essayer peut-être de traduire la saison de Froome, qui est un peu différente par rapport aux précédentes, il a vraiment un objectif cette année, c'est d'être performant sur le Tour de France en troisième semaine, là où il était mis en difficulté, notamment par Quintana les deux dernières fois. Donc est-ce qu'il n'a pas couru un peu moins cette année, justement, pour se préparer mieux à cette lutte qui l'attend plus difficile en troisième semaine. Donc, faudra voir ça.
Toutes les hypothèses sont bonnes, mais ça ne reste que des hypothèses.
Et voilà, et boum. Et voilà ton hypothèse, Georges, tu te la gardes.
La troisième semaine, Georges, on n'est pas rendu. Hein. Entre temps, je ne sais pas si tu as regardé la carte, mais il y a quelques
Assez sur la moto.
Ah, mais attendez, ce n'est pas forcément mon hypothèse, c'est ce que nous a expliqué finalement Sky.
Oui, oui, non, mais ça, les explications. Non, non, mais ça, j'adore les explications. Marketing.
Ah, ben oui, il faut bien. C'est très scientifique du côté de chez Sky. On a dû faire des calculs.
Bon. Oui, je pense, oui, mais il y a beaucoup de calculs qui nous ont donné qui malheureusement collent pas.
On a du mal, voilà, c'est ça.
Oh, ça y est, ça commence. On peut pas le retenir. Très bien, Chris Froome. Alors, par qui Chris Froome peut-il être battu? On a compris dans les mots de Jérôme Pinot qui pourrait peut-être être battu par l'un de ses propres coéquipiers, mais il y en a aussi certains dans d'autres équipes qui ont bien envie de remporter le Tour de France, et notamment un Colombien qui pourrait devenir le premier Colombien en jaune. Tu l'as rencontré là aussi, oui, Georges, notre ami Nairo Quintana, évidemment, son rêve en jaune. Comment on dit en espagnol ?
El sueño amarillo. Il en parle depuis l'année dernière, ça veut dire le rêve en jaune pour celui qui a terminé deux fois du Tour de France. L'année dernière, il était venu mourir à 1 minute 12 seulement, on a envie de dire, de Christopher Froome. Alors lui, par contre, il a fait une saison de malade. Il a pratiquement gagné partout où il s'est rendu, autour de Catalogne, autour de Romandie, à la route du Sud dernièrement, mais il avait un peu moins d'adversité parce qu'il a décidé de pas venir sur le Dauphiné. Troisième du Pays Basque également. Il est vraiment plus fort que l'année dernière. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'il est venu en conférence de presse tout à l'heure, seul leader, sans Alejandro Valverde qui habituellement était à côté de lui. Ça montre que la Movistar désormais a vraiment choisi son cheval, on va dire. Hein. Ce sera Nairo Quintana pour aller chercher le Tour de France. Il a paru comme à son habitude. Vous savez, son surnom en Colombie, c'est Iron Man. En hommage au super-héros, parce que il est un peu de fer comme ça, son visage. Vous savez, on ne sait jamais s'il est content, pas content. Voilà, il arrive face à la presse. Moi, je suis là.
Un peu comme toi, d'ailleurs. Vous ressemblez un peu. Hein, vous ne trouvez pas qu'il y a un petit air.
Je suis un peu plus expressif.
Devant. Ah, expressif.
Surtout quand le Portugal gagne.
Voilà,
ça, ah oui, ça, oui, ça. On l'a bien vu hier.
Alors, voilà, mais en tous les cas, il a paru très confiant tout à l'heure. Ouais. Et c'était juste assez marrant de voir à quel point toute la Colombie est derrière lui. Même quand les journalistes colombiens s'adressent à lui, ils lui disent bonjour champion. Champion, j'aurais une question pour toi.
Voilà, champion, ça, on l'appelle comme ça. Alors justement, la transition est toute trouvée, Georges, puisque notre correspondant en Amérique du Sud, Fabrice Aubry, s'est rendu dans le village de Quintana, là-bas, où il s'est entraîné pendant de longues semaines avant de revenir en France. Il a rencontré notamment les membres de la famille de Quintana, donc reportage dans le petit village, là-haut, dans les sommets de Colombie.
Ici, nous sommes à Combita, un petit village perché à 3100 mètres d'altitude. Bienvenue dans le fief des Quintana. La maison familiale est facilement reconnaissable avec deux grands portraits du jeune champion dessinés sur la façade. Les gens s'arrêtent pour prendre des photos et ne cachent pas leur admiration pour l'enfant du pays.
Fierté pour nous ici, pour toute la région de Boyacá.
Pour moi, c'est un exemple dans la vie. Nous aimons beaucoup la représentation qu'il fait de la Colombie au niveau mondial.
À niveau mondial.
Nairo Quintana est un exemple de ténacité, un excellent représentant et ambassadeur de notre pays à l'international.
C'est une fierté pour tous les Colombiens.
Les parents de Nairo Quintana vivent ici, ils tiennent une petite ferme et une épicerie. La mère du jeune champion se souvient comment son fils a commencé à faire du vélo.
Il a commencé à faire du vélo pour aller à l'école. 17 km aller-retour. On lui a ensuite acheté un vélo de course. Il a commencé à faire de la compétition avec d'autres garçons. Et c'est là qu'il a commencé à gagner.
Lorsqu'il est de passage dans la région, Nairo Quintana s'entraîne souvent avec son petit frère Dayer, qui lui aussi est devenu cycliste professionnel. Dayer Quintana qui est d'ailleurs très confiant sur les chances de son frère pour le Tour de France.
Cette saison, il a une équipe très forte. C'est son meilleur moment. Il ne manque rien, il manque juste peut-être un peu de chance. Mais je pense vraiment que cette année, tout sera en sa faveur.
Alors après avoir terminé deux fois deuxième de la grande boucle, Nairo Quintana sera-t-il enfin le premier Colombien à remporter le Tour de France cette année? Une chose est sûre, c'est tout un peuple qui est derrière lui.
Reportage donc en Colombie de Fabrice Aubry. Quintana va-t-il devenir le premier Colombien à remporter le Tour de France? Cyril, t'en as vu passer des Colombiens il y a quelques années, dans les années 80 notamment. Mais c'est vrai que ce Quintana est vraiment un coureur complet. Est-ce que tu penses que c'est enfin son année?
Ça devrait logiquement être son année puisqu'il est passé à côté deux fois, et deux fois où on aurait pu ou si on disséquait les tours qu'il avait fait, pratiquement les deux fois il aurait dû l'emporter. Mais bon, il y a des circonstances qui font que ça n'a pas été le cas. Et puis il avait, il faut bien le dire, et c'est peut-être pas par hasard d'ailleurs que Valverde n'est pas présent, il a quand même un adversaire au sein même de sa propre équipe qui est Valverde, qui lui a jamais facilité la tâche jusqu'à aujourd'hui, même si l'an dernier Valverde disait qu'il travaillait pour, ça n'a jamais été vraiment très très visible, et même si encore cette année il dit qu'il va se mettre totalement au service du Colombien. Vous savez, quand on s'appelle Valverde et qu'on a le palmarès qu'il a, il y a un moment c'est difficile
de passer le flambeau, de passer du rôle de leader à celui de lieutenant.
Donc il fera quand même qu'il se méfie d'abord de Valverde. Alors si Valverde était un petit peu éjecté au niveau du classement général, peut-être qu'à ce moment-là il jouerait le bon samaritain, ce qui lui permettrait peut-être de devenir populaire en Colombie. Mais pour l'instant, je considère que Quintana, effectivement, est celui qui a le plus de ressources, le plus de capacités en haute montagne, et lui aussi a progressé contre la montre pour pouvoir battre Chris Froome.
Ouais, Valverde, principal adversaire finalement de Quintana, Jérôme?
Assurément. Je suis de ceux qui disent que le favori du Tour, que ce soit Froome ou Quintana, les deux grands favoris du Tour ont un gros problème que n'a pas Alberto Contador, c'est qu'ils ont au sein de leur équipe aussi un autre coureur ou des autres coureurs pour Froome capables de faire de belles choses et qui ont déjà fait de belles choses. Vous savez, équipier, c'est un métier. Et Valverde n'a jamais fait ce métier-là. Il est leader de son équipe, il a une aura, il a pris une ou deux années de suspension, il est revenu et depuis, il ne faut rien lui demander. Il fait son truc, il fait sa course et il ne sera certainement pas un équipier dans la montagne pour Quintana. Il va mettre du peps, il va attaquer, il va suivre les coups, mais il sera d'aucune aide à Quintana dans la montagne. Et quid de ce qui va se passer dimanche si Valverde s'impose à Octeville, à la Glacerie? Et s'il prend le maillot jaune, comment on fait du côté de Movistar? On a prévu de défendre le maillot jaune si tôt? On défendra pas Valverde avec le maillot jaune? Je demande à voir.
En tout cas, ils ont été clairs en conférence de presse.
Georges, on va s'interrompre quelques instants. On repart à Wimbledon avec Eric Salio. Cette fois-ci, c'est une balle de match pour Joe Wilfried Tsonga, Eric.
Absolument, balle de match pour Tsonga face à Juan Monaco. C'est sur service de l'Argentin. 6-1, 6-4, 5-3, 30-40. C'est la numéro 2. Et c'est une double faute. Donc voilà, ça propulse Joe Wilfried Tsonga au troisième tour de Wimbledon. C'est un tour parfait pour le Français qui reviendra sur les cours demain, probablement, et ça c'est pas une bonne nouvelle, face à John Isner qui mène 2-7-0 face à Matthew Barton. Quant à Lucas Pou, il est à 2 points de la victoire de son côté face à l'Américain Young.
Eh ben, ça marche pas mal pour les tennismen français engagés à Wimbledon. Merci Eric. Georges Quirino donc avec nous, avec Jérôme Pinault et Cyril Guémard pour évoquer le cas Quintana. Je crois que tu as rencontré le directeur sportif de la Sky, l'un des directeurs sportifs, Nicolas Portal, le petit français qui évidemment fait de Quintana le principal adversaire de Froome.
Exactement, oui, Nicolas Portal à qui on a demandé hier s'il n'y avait pas dans le bus Sky, tu sais, une petite cible avec la tête de Nairo Quintana où on jetait des fléchettes. Alors il nous a assuré que non, mais en tous les cas il nous a bien confirmé que pour la Sky, Nairo Quintana était bien l'ennemi public numéro 1. On l'écoute, Nicolas Portal.
Il a tout pour lui en ce moment-là. Il a été deux fois, il a fait deux fois le tour, il a fait deux fois deuxième. Et tous les ans, en fait, l'an dernier, quand il est venu, quand il a fait deuxième, ça s'est vraiment joué à peu de choses. Il a une équipe où c'est peut-être l'équipe que je crains le plus. Puis il a toute la Colombie qui est derrière. Il a fait que progresser. Cette année, il a fait une saison un petit peu, je pourrais comparer à ce qu'on avait fait un peu au passé, où toutes les courses qu'il a fait, il a quand même quasiment gagné ou il était deuxième. Ils ont confiance, il a confiance, il sent que c'est l'année ou peut-être ou jamais, ou en tout cas, c'est une des années où il peut performer. C'est le numéro un, ça peut vraiment mettre le bazar.
Ça peut mettre le bazar, nous dit Nicolas Portal, qui fait donc de Quintana l'adversaire numéro 1 de Chris Froome. Dans tout cela, messieurs, on a oublié un certain pistolero, Alberto Contador. Enfin, on l'a oublié, Georges l'a pas oublié, lui, hein, évidemment, hein, Georges. Tu l'as pas oublié, Alberto?
Pas l'oublier, le pistolero. Ça rappelle à nous, à chaque fois.
Bon, avec dans quel état aborde-t-il ce Tour de France? Dans quel état d'esprit?
On l'a rencontré hier, Alberto Contador, pour ce qui était annoncé en début de saison comme son dernier Tour de France. Hein. Il a 33 ans, il devait arrêter sa carrière. Finalement, il va rempiler, il nous l'a bien confirmé encore hier pour deux saisons supplémentaires. Alberto Contador, il a changé un peu sa préparation. Déjà, il n'a pas fait le Giro, hein, comme l'année dernière, donc il arrive un petit peu plus frais. Il a repris la préparation de saison, en tout cas, comme les années où il avait gagné en 2007. Il avait fait Paris-Nice, il l'a refait donc cette année pour, on va dire, avoir le même calendrier pour l'emmener jusqu'au Tour de France. Il est plus frais que l'année dernière et forcément ses chances, eh bien, il y croit, le pistolero, dur comme fer, on l'écoute.
Je pense que je suis en condition physique pour gagner. Je me suis vraiment préparé pour ça toute l'année. J'ai l'expérience de plusieurs Tours de France, de quelques grands tours maintenant. Je sais comment mon corps doit répondre, les sensations que je dois avoir en analysant le parcours. Je me dis que c'est une grande boucle qui peut me convenir. Si je n'ai pas de pépins, ça peut vraiment être un bon tour pour moi. On verra dans plus de 20 jours si c'était mon Tour de France.
Si le tour est mieux, non ?
Voilà qui affirme ses ambitions, Cyril. Alberto Contador ne s'est jamais caché qu'il veut remporter ce Tour de France. Mais en a-t-il encore les moyens ?
Non, absolument pas.
Ah, ça au moins c'est catégorique.
Depuis 2009, il n'a jamais fini sur un podium du Tour de France. Il n'a même jamais gagné une étape. Alors moi, je veux bien qu'on le présente comme
tu vas énerver Georges, tu vas énerver Georges.
Non, mais je suis désolé. Non. C'est les chiffres. Il a jamais gagné une étape depuis 2009 et il n'a jamais été sur le podium. Et vous voulez en faire le favori, celui qui va battre Froome? Moi, je veux bien. En plus, il a 33 ans, il a pas progressé quand même depuis 5 ans.
Ok, voilà l'avis tranché de Cyril Guimard. Est-ce que Jérôme Pinault partage l'analyse de son aîné?
De l'ancien. Je vais être d'accord.
Oh là là, vous n'allez pas être d'accord sur tous les deux Nantais là.
Pas sur tout, hein, mais sur le cas Contador. Oui, je pense que la page le Contador est tournée. S'il a plus les moyens de s'imposer, il a jamais depuis 2009 dominé comme il a pu le dominer par le passé. Le Tour de France est très difficile cette année. Il a affaire à des coureurs bien plus jeunes que lui et bien plus forts que lui. Le contre-la-montre, ça n'est pas non plus sa tasse de thé. Ça ne l'est plus. Depuis quelques années, ça l'a été un moment quand même, oui, mais ça ne l'est plus.
Dans un autre monde.
Voilà. Et donc non, il n'est pas. Pour moi, c'est un outsider. Moi, je place Thibaut Pinot au-dessus de Alberto Contador.
Très bien.
Je vais rappeler juste, il a rien gagné depuis. Il a quand même gagné le Tour d'Italie en 2015. Il a gagné deux fois le Tour d'Espagne.
Oui, mais pas
en
France. Hein.
Non, on parle du Tour de France. Voilà. C'est la plus grande course du monde, Georges.
Oui. Bah après, on nous dit qu'on parle que du Tour de France. Alors voilà. Je dis, il y a d'autres.
Non, mais t'es trop supporter.
En tous les cas, les quatre fantastiques de l'an dernier se transforme en deux super-héros. Il y en a deux en moins, même si Nibali a remporté le Giro et qu'il se présente au départ de ce tour plus en équipier de Fabio Aru. On verra ce que ça donnera.
Ça, c'est pas possible non plus.
D'ailleurs, c'est assumé. Hein. Il a vraiment dit en conférence de presse qu'il serait l'équipier de Aru, que le leader, ce sera Fabio Aru.
Alors moi, je peux te dire un truc, c'est que quand tu es leader d'une équipe et quand tu es équipier, pour préparer un objectif comme le Tour, tu pars en stage avec ton leader. Et là, pour l'info, Nibali a préparé le Tour de France d'un côté et Aru de l'autre. Donc pour faire une équipe, ça risque d'être compliqué.
C'est pas facile de les mettre ensemble. Il y en a un qui est sarde et l'autre qui est sicilien.
On a compris que la selon vous, messieurs, en tous les cas,
Nibali est sur le départ et je peux vous dire qu'il va pas faire l'équipe.
L'adversité numéro une de tous les leaders de ce Tour de France se trouve dans leur propre équipe.
Exactement.
On verra ça dans les semaines qui viennent. Merci Georges d'être venu avec nous. Demain, la moto. Hein, n'oublie pas ton petit imperméable, ton caouet, tes bottes et quelques petits pulls, évidemment, pour faire l'étape qui s'élancera aux alentours de 12h20, je crois, au départ de Mont-Saint-Michel. On en parle justement dans un instant, puisqu'il va être l'heure de parier. Merci Georges. Saint-Georges. Jérôme Pinault et Cyril Guimard restent avec nous dans la dernière partie de cet intégral tour. Et figurez-vous qu'ils vont nous rejoindre. Et oui, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon sont là, encore là, pour parler du tour et des paris de ce Tour de France. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La dernière partie de l'Intégral Tour, la première édition de l'Intégral Tour évidemment, qui reprendra dès demain 15h pour la première étape de ce Tour de France, toujours en compagnie de Cyril Guimard, de Jérôme Pinault et de Thierry Bourguignon qui nous rejoint comme tous les ans. Salut Bourgui.
Salut messieurs. Ah, ça fait du bien, hein, ça sent bon là.
Ça sent bon l'été, enfin ici on dirait pas.
On
mais
entend
bon.
Les cigales chanter.
J'entends chanter les cigales.
Ah, mais c'est vrai que j'ai vu certaines images, Kaoué, parapluie, c'est pas top, hein, quand ouais, le départ.
Mais bon, c'est comme ça. Demain, a priori, il y aura peut-être un peu de soleil. On l'espère en tous les cas.
Et surtout du vent.
Et surtout du vent. Luc Leblanc a un petit empêchement. On le retrouvera évidemment tout au long du Tour de France. Messieurs, nous allons parier. Bah oui, on va commencer. On va remettre.
On peut dire bonjour à Thierry quand même.
Bien je sais pas. Ah, oui. Bonjour, mon Thierry.
Bonjour, mon Thierry. Bonjour Monsieur Pinault.
Bonjour Monsieur Bourguignon, ça va très bien.
Et puis donc Benoît Boutron qui est avec nous parce que cette feignasse de Benji pour commencer le tour est en vacances. C'est l'heure des paris sur RMC.
Les paris RMC.
BMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker.
Mais Benoît lui travaille tous les jours. Salut sans l'équipe. Relâche. Ça va
salut.
Benoît.
Ça va et vous Benoît. Benji fait des home trainers. Hein. Je vous laisse imaginer la taille du home trainer dans le salon.
Ouais. Ils arrivent à trouver des trucs comme ça pour sa taille.
Ah bah je sais pas comment il fait.
Tu fabriques pas ça toi Thierry dans ta marque.
Non.
T'as pas de modèle.
C'est des trucs hors normes.
Hors gabarit.
C'est impossible.
Bon Benoît, oui. on va évidemment parier tout au long de ce mois de Tour de France, de ces trois semaines de Tour de France avec, on le rappelle, le maillot jaune, le maillot à poids, voilà. Le maillot vert là aussi, hein, il y a des classements intermédiaires et puis il y a aussi la victoire d'étape tous les jours. On va ouais. Peut-être commencer par
on fait bah, pas toutes les étapes quand même.
Non, pas aujourd'hui.
Ça m'a fait peur là, parce qu'il y avait du boulot.
Rappelons que tous les jours, il y a un classement actualisé des pronostiqueurs sur le Tour de France, sur le site des paris RMC, rmcsport.fr, donc on tient ça à jour tous les jours avec Benjamin Ramager.
Exactement. Qui a remporté l'épreuve l'année dernière? J'ai plus de souvenirs. C'est pas Cyril. Hein. Cyril avait été catastrophique l'année dernière.
Non, j'étais à la rue. C'est peut-être Lucho.
Je crois que c'est Lucho.
C'est Lucho. C'est Lucho.
Lucho.
Ouais. Ah ouais. Je non, mais il y a
une arnaque là. Il y a un truc électrique là. Non. Attendez, il a mis un coup de Gégène. C'est pas possible. Lucho qui a gagné.
Mais vous trouvez pas son absence étrange là tout de suite aujourd'hui?
Il a pris un problème.
Un contrôle à mon
avis. Ah oui.
Contrôle oui. Avant le tour, là, c'est pas possible.
Non, il est malade, simplement, on va dire ça.
Voilà. Il fait une boignie. Ouais. Bon.
Non, il est pas bagarreur comme ça. Il est pas bagarreur comme ça, Lucho.
C'est peut-être lui qui l'a pris.
Ah, tu crois?
C'est possible.
Ah, il est capable, tu sais, un peu éméché bon, le
Lucho,
soir.
Lucho, si tu nous entends, évidemment, tu as le droit de venir te défendre à l'antenne.
Ah ben non, il peut pas, hein, il a la mâchoire cassée. Il peut pas parler.
Bon, alors,
Le maillot jaune
du Tour de France. Donc, qui va remporter le tour pour vous? On va commencer par toi Thierry, tiens, puisque
Christophe, ça peut influencer parce qu'on a des bons coups à jouer à mon avis. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Évidemment, on a deux grands favoris, Chris Froome à 2,30 et Quintana le colombien. Là on parle pas d'euros évidemment, 2,70 pour Nairo Quintana. Après les cotes s'envolent, donc Contador à 5,20, Fabio Aru à 15, Thibaut Pinot à 20. Et pourquoi je vous donne les grosses cotes? Puisque si le coureur sur lequel vous pariez termine sur le podium, vous touchez un quart de la cote. Donc si Pinot fait troisième du tour, cote de 5, c'est quand même un coup énorme. On a des bons coups à jouer là-dessus début de Tour de France.
C'est stratégique là. C'est stratégique.
Ah, il faut réfléchir.
Est-ce
comme
qu'on
ça
pourra changer en cours de tour aussi?
Ah bah non.
Ah non,
c'est oui, voilà.
Ton vote définitif c'est aujourd'hui. Alors mon Thierry, il ne reste plus que 2 minutes, malheureusement, on est à peu près par le temps.
Ben oui, ben moi je suis un inconditionnel de Contador, ben c'est pour ça que je veux pas le jouer. Parce que je suis d'accord avec vous, je vous ai écouté tout à l'heure, il a un peu de mal. Et ben moi ce qui me fait vraiment peur, c'est que Froome nous fasse encore déchanter. Mais je vais jouer Quintana.
2,70 Quintana, c'est pas mal, hein. Tu triples quasiment ta mise.
Bon, non, mais là je vais mettre un paquet hein, en tous les cas.
Ah là, Nairo Quintana, donc c'est le favori là, du Tour de France pour Bourguit qui met sa paye.
Ma paye
son énorme paye.
On fait uniquement le maillot jaune, on fait pas le podium.
On n'a pas pas le temps de faire.
Ah, mais oui, pour aujourd'hui, en fait, c'est Valverde qui est le plus dangereux pour Quintana. Hein, en fait.
Cyril.
Moi, je vais mettre Quintana. Il va bien finir par le gagner.
Quintana 2,70, on rappelle.
Okay. Oui, si Valverde tombe, il peut le gagner.
Non, j'avais fait le podium aussi, mais bon, je vais le.
Bon, on aura le temps un peu plus demain après-midi de donner.
Et tout dans les grandes gueules du sport également.
Et dans les grandes gueules du sport demain matin. Jérôme.
Donc, je dis rien.
Moi, je joue tactique. Je joue Cocorico, Thibaut Pinot.
Ah, oh, Jérôme, la cote.
Il a tout compris. S'il fait podium, il a une cote de 5. C'est pas mal.
Et okay. Voilà, et ouais. Puisque personne ne le donne, je vais donc donner Christopher Froome, vainqueur du Tour de France 2016.
Christophe,
c'est sûr. L'Angleterre est sortie de l'Euro. L'équipe d'Angleterre de foot est sortie de l'Euro. Froome, on va le sortir du podium.
Enfin, il est anglais comme toi, t'es
non, mais moi, je sais, Christophe, il pleut tellement depuis qu'on est arrivé en Normandie, il en a marre de se mouiller. Donc là, il prend Froome, il est tranquille, il reste au sec.
Et puis Froome a gagné le critérium. À chaque fois qu'il gagne le critérium, il gagne le tour.
Ouais, non, mais bon, et je vais te dire que Quintana, chaque fois qu'il. Regarde, l'an dernier, il fait 2 à la Route du Sud, il fait 2 au tour. Cette année, il gagne à la Route du Sud. Donc,
c'est
une
référence.
Non, mais attendez, les références, mais on peut les trouver. Et on fait parler de n'importe quoi.
Bon, mais si on a malheureusement plus le temps de discuter tous ensemble avec nos auditeurs, on va donc arrêter les paris et on vous donnera nos favoris demain pour l'étape, la première étape du tour. Thierry, tu la donneras à Benoît, comme ça on verra si t'es bon, hein, mais on veut que tu donnes ton pronostic maintenant. Merci messieurs, l'intégral tour voilà va s'achever dans quelques instants. Tout d'abord un petit tour à Vincennes avec Frédéric Zermati pour les courses du jour. Salut Fred.
Salut Christophe, bonsoir à tous. Le quintet va se disputer ce soir sur l'hippodrome de Vincennes. Le départ est prévu aux alentours de 19h47. Une belle épreuve européenne qui se disputera sur 2100 mètres de la grande piste avec le départ donné à l'aide de l'Autostar. On devrait aller vite ce soir sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Je vous rappelle un petit peu les pronostics de la Dream Team course avec Sébastien Darras qui fait confiance au 18 Owen Face et au numéro 1 Suricato. Et puis Luis Fernandez qui vous conseille le numéro 6 Superface, alors que Laurent Guadard lui retient le 11 Chini de Loison et le 8 Beautiful LD. Moi je vais vous proposer une dernière minute qui me semble tout à fait capable de disputer l'arrivée de cette épreuve. C'est le numéro 3 Bosco Dugoutier qui a tiré un très bon numéro derrière l'Autostar, qui fait partie de l'entraînement redoutable de Sébastien Garato et confié au talentueux David Thomas. Sa cote est de 11 contre 1. Peut-être pas une base, mais un concurrent tout à fait capable de disputer l'arrivée de cette épreuve. Et puis je vous rappelle le rendez-vous de demain avec la Dream Team Course RMC de 13 à 14h pour débattre de ce superbe week-end de course. Et comme d'habitude, si vous voulez d'autres infos et des paris, direction le site d'rmcsport.fr.
PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Voilà, c'est terminé pour l'intégral tour. Rassurez-vous, nous revenons demain dès 15h pour la première étape de ce Tour de France entre le Mont-Saint-Michel et Utah Beach. Ce sera jusqu'à 18h. Et puis, dans quelques instants, évidemment, le retour du foot, le retour de Jean-Louis Tour pour l'intégral Euro 2016. Bonne soirée et à demain sur la route du Tour.
RMC, intégral tour.